On va regarder si l'étiquette énergétique compte lorsque on achète un bien. Voilà. Alors, je ne veux pas vous faire de peine, surtout à Daniel, ça peut être un objectif. Ça doit être un objectif, sans aucun doute, des syndics. Mais aujourd'hui, et en tendance, je crois que ça s'améliore, on voit quand même que pour 85% de ceux qui ont répondu, la vertu énergétique n'a pas été une aide à la décision d'achat. Et on parle de biens en copropriété. Voilà, alors ça veut dire qu'il y a du travail. Vous avez sans doute raison sur le poids de cet argument. Hein, je vous ai incité à le dire, mais on n'y est pas encore tout à fait. Alors, sur le retour sur investissement, une sensibilité qui est réduite.
Sur le retour sur investissement, il ne faut pas le négliger. Il a un impact surtout sur la capacité des habitants à rester dans le bien dans lequel ils sont. C'est-à-dire que l'augmentation des prix de l'énergie amène à ce qu'on commence à avoir, d'abord on le voit sur les copropriétés difficiles, mais sur les autres copropriétés, des coûts de charges qui augmentent et donc des copropriétaires qui vont commencer à avoir des difficultés à faire face à ces charges.
Le syndic, il est crédible sur la maîtrise des charges. On vous attend beaucoup là-dessus. C'est vraiment un critère de choix. L'efficacité d'un syndic, on peut la mesurer à ça. Donc là-dessus, vous avez un levier pour dire rien ne va plus, il faut engager des travaux pour réduire vos factures, enfin la facture collective et vos factures individuelles.
Alors là, la démonstration avec Elio est tout à fait intéressante. Parce que je reviens sur l'alchimie technique du financement des travaux. Si on va voir des copropriétaires en imaginant que le remboursement, et on ne fait pas de travaux pour l'hypothétique rendement des travaux. On fait des travaux pour d'autres raisons que l'hypothétique rendement des travaux. Par contre, on a besoin de structures comme Elio parce qu'aujourd'hui, faire face à des rénovations énergétiques ou des rénovations qui intègrent l'énergie prend en considération ce que dit la dame est tout à fait pertinent, c'est-à-dire que même si ma prime Rénov CoPro est simple...
Nos copropriétaires ont du bon sens.
C'est compliqué. C'est clair. Et donc aujourd'hui, la préoccupation première, je dirais même avant la technique de ce qu'il faut faire comme travaux, c'est ce que l'on pourra financer, comment cela pourrait être financé. Cette AMO financière, on l'avait demandé dans Procivis Lab, donc j'insiste vraiment, cette AMO financière est première. Il faut commencer par savoir ce que l'on peut acheter pour ensuite pouvoir le faire. On aimerait tous avoir une Ferrari, mais on finit par une Twingo parce que ce que l'on peut avoir, c'est une Twingo. Eh bien, ça, c'est aussi une analyse qui est faite avec Elio. Ils ont des capacités techniques, des accompagnements. Cette AMO financière est première avant toute autre approche pour le syndic. Alors, ça lui permet d'avoir une pédagogie sur la réduction, sur le montant du reste à charge, sur tout le reste qui est décliné, sur la ressource à aller chercher auprès d'un financement bancaire. Cette articulation financière, je dis, part aujourd'hui, non pas de l'analyse du bâti comme avant, mais de l'analyse financière du possible.
Estelle, je ne t'ai pas encore donné la parole. Là, le lien est immédiat. On a parlé aussi de copropriétaires à faible revenu ou à très faible revenu. On est très loin, effectivement, de ceux qui peuvent souhaiter ou la Ferrari ou la Rolex, hein, pour reprendre ces mauvaises images. En tout cas de cause, il y a ceux qui comptent. Alors, qui peuvent être des copropriétaires bailleurs, hein, pour qui le rendement locatif va être important. Et le rendement locatif, il est le fruit d'une équation. Donc, si on engage des dépenses, voilà, il va être amputé, même s'il y a une fiscalité qui favorise les travaux. On pourra d'ailleurs porter un jugement sur cette fiscalité. S'ils sont copropriétaires occupants, mais copropriétaires pauvres, voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parler de ceux qui ont les moyens n'a pas grand intérêt, hein, même si c'est l'approche macroéconomique qui nous est conduite. Et pour tous les autres, ceux qui souffrent d'une érosion du pouvoir d'achat, c'est les classes intermédiaires, hein, sans aller jusqu'au plus fragile. Quelle sensibilité on a? Solia, c'est une association, un réseau associatif, alors qui est auprès des syndics et des copropriétés, et puis qui a ce regard-là particulier sur les plus fragiles des copropriétaires.
Oui, effectivement, le mouvement Solia intervient sur l'amélioration de l'habitat au sens large et sur l'accompagnement dans tout ce qui concerne l'amélioration de l'habitat. Et donc, forcément, sur ces questions d'amélioration des copropriétés et d'accompagnement des copropriétés vers l'amélioration énergétique, on est très présent. Et on est en accompagnement, alors à la fois des collectivités territoriales, quand elles ont des dispositifs cibles qui permettent d'intervenir et de mettre un focus à un instant T et de pouvoir accompagner de façon massive ou de façon ciblée certaines copropriétés avec des axes privilégiés, ou dans le droit commun, ce qu'on appelle dans notre jargon le DIFU, pour toutes les copropriétés avec les aides de droit commun pour les accompagner effectivement dans des projets de rénovation. Après, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Effectivement, la première étape, c'est de réaliser un audit, de pouvoir programmer intelligemment les travaux, de savoir d'où on part, où on peut aller, effectivement, jusqu'où on peut aller, mais par quelles étapes on peut passer pour y aller, pour savoir ensuite quelles sont nos capacités financières. En fonction de la capacité contributive des copropriétaires à un instant T, donc en fonction de la composition de la copropriété, puisqu'effectivement, on a des bailleurs, on a des propriétaires. Alors, on a parlé de propriétaires pauvres. Dans notre jargon, nous, on parle de modestes ou très modestes en fonction des critères de l'ANA, puisque ça, c'est des critères qui sont établis à partir
desquels... On parle de déciles aussi de revenus, hein, oui, dans la classification de l'INSEE. En tout cas, ceux qui sont dans les déciles du bas, on va dire. Hein.
C'est ça. Et après, quand on est dans des critères de modestes ou très modestes selon l'ANA, on peut déclencher aussi des aides et des aides complémentaires qui vont venir un petit peu abonder les aides de droit commun pour certaines parties de la population, pour les aider un peu plus favorablement.
Deux choses. Est-ce que vous croyez qu'il y a un doute qui pourrait être majoré chez ceux qui ont le moins de revenus sur l'objectivité des diagnostics? Daniel évoquait tout à l'heure un débat qui ne sera pas le central aujourd'hui entre nous, qui est la fiabilité du diagnostic de performance énergétique. Le gouvernement a refabriqué un nouveau moteur et on va avoir un nouvel outil, semble-t-il, fiabilisé. Mais est-ce qu'il ne reste pas un doute, sans même parler de cet épisode-là, dans la tête des copropriétaires? Est-ce qu'on nous dit la vérité? Est-ce que les outils sont effectivement aujourd'hui aussi fiables que quand on fait un scanner, voilà, pour reprendre vos métaphores, hein, et on sait si on est malade ou si on ne l'est pas?
Il n'y a pas qu'un doute, il y a des vraies limites dans les diagnostics qui peuvent être réalisés aujourd'hui. Donc c'est vrai que cette étape du diagnostic, elle est cruciale, mais aujourd'hui elle est complètement sous-estimée. C'est très difficile de démarrer une réflexion d'un projet de travaux en finançant déjà la partie diagnostic. Donc les copropriétaires sont souvent tentés de faire un diagnostic au rabais, entre guillemets, un diagnostic rapide, qui ne permet pas forcément d'approfondir et d'avoir une notion complète et vraiment cohérente de l'état des lieux pour pouvoir amorcer une prise de décision. Le diagnostic, c'est à la fois un état des lieux qui est essentiel et à la fois un outil d'aide à la décision. Si on va trop vite sur cette étape-là, si on fait un diagnostic rapide peu cher, forcément, le niveau d'aide à la décision, il est moins performant.
Il peut être financé, ce diagnostic.
Il peut être financé. À notre avis, il doit être financé si on veut aller sur des diagnostics performants, très complets, qui peuvent être assez chers, effectivement.
Aujourd'hui, il est finançable. Il y a des aides qui existent pour financer un diagnostic complet et ambitieux.
Alors oui, il y a des aides qui existent. Si on prend l'exemple de Paris, par exemple, on a un chèque à l'audit sur Paris qui permet justement...
C'est la ville qui...
C'est dans un dispositif spécifique sur la ville. C'est l'Agence parisienne du climat.
D'accord.
Qui accompagne les copropriétés du territoire et qui peut financer justement cette partie études diagnostiques pour justement faire en sorte qu'elle ne soit pas dévalorisée, qu'elle ne soit pas sous-investie par les copropriétés, puisqu'on sait que c'est une étape indispensable de l'aide à les décisions pour bien calibrer un projet et bien établir le potentiel de financement qu'il y a derrière et la capacité à accompagner toutes les composantes de la copropriété, puisque Daniel Dubrac l'a rappelé tout à l'heure, une copropriété, c'est une multitude de propriétaires à un instant T qui doivent se mettre d'accord sur un projet, alors qu'il y en a qui sont sur le départ, il y en a qui viennent d'arriver, il y en a qui sont à la retraite et qui ont une baisse de revenus, il y en a qui viennent de s'endetter pour acheter. Donc il faut réussir à les mettre en cohérence, à les mettre d'accord autour d'un projet à un instant T.
Est-ce que les obligations environnementales, dont on parle ensemble aujourd'hui, peuvent abîmer ces communautés de faits et de droits que sont les copropriétés? En clair, imaginons 20 copropriétaires et puis 3 qui ont des très faibles revenus, qui sont en difficulté, et puis il y a un vote collectif qu'il faut suivre, et on peut être mis dans une situation extrêmement difficile. Est-ce qu'il y a une crainte? Vous vous intéressez à l'équilibre social des copropriétés?
Bien sûr, c'est un souci qu'on porte, nous, très clairement dans ces réflexions-là. Aujourd'hui, nous, on est là pour parler d'habitat, pour parler de logement. Les entrées dont on parle beaucoup et qui nous réunissent aujourd'hui, ce sont des entrées environnementales, de performance énergétique. On a parlé de gains énergétiques, on a parlé de 35% de gains énergétiques. C'est très bien, c'est très performant. Mais qu'en est-il pour les copropriétés qui, en faisant le maximum des travaux, de tout ce qu'elles pourront faire en isolant, parce que petits bâtiments, parc ancien, etc., on n'atteindra que difficilement 20-25%, même en mettant énormément d'argent sur la table. Et que se passe-t-il quand on a effectivement quelques propriétaires modestes et très modestes au milieu d'un immeuble qui va suivre le mouvement, vouloir atteindre les 35% coûte que coûte pour obtenir les aides, sans forcément se préoccuper des trois personnes qui n'arriveront pas à suivre dans l'immeuble.
Vous partagez l'idée qu'il faudrait, comme le disait José, baisser un peu l'exigence et que 35% à la barre est placée haut ?
Il y a plusieurs idées qui peuvent être cumulées. C'est effectivement pourquoi pas baisser l'exigence et avoir quelque chose d'encore plus large qui pourrait s'adresser à des copropriétés encore plus diversifiées en ayant une exigence moindre, avec peut-être d'autres critères, pas forcément en baissant l'exigence, mais en ayant des critères qui ne soient pas uniquement la porte d'entrée par le gain énergétique. C'est-à-dire que l'effort financier par rapport à la valeur vénale de l'appartement qui est fait pour pouvoir le rénover et l'entretenir énergétiquement peut être un critère intéressant à regarder. La composition de la copropriété aussi est un critère intéressant. Après, l'interroger au stade de l'audit, c'est complexe parce que ça repose sur une enquête d'occupation et ça, c'est de l'ingénierie, donc c'est pas simple. Hein.
On rappellera que pour les publics auxquels vous êtes très attentifs, c'est la double peine, hein, puisque un tiers des logements qui sont des passoires énergétiques sont détenus par des personnes modestes et très modestes. Hein. On rappellera ça dans nos copropriétés. Le reste à charge aujourd'hui, en l'état actuel des aides existantes, il vous paraît soutenable par les personnes les plus modestes, ou il faudrait encore des aides qui ciblent davantage, qui quitte à donner moins aux autres, je le dis de façon provocatrice, mais mieux redistribuer?
Alors forcément, il y a des réflexions par rapport à ça. Donc là, on parle d'une aide, une aide socle qui est pour tout le monde. Donc cette aide, elle est incitative, elle est très importante. Nous, c'était un outil qu'on avait dans des dispositifs publics qui n'existait pas dans le droit commun jusqu'à présent. Aujourd'hui, elle est généralisée par l'État dans le droit commun et c'est très important parce qu'enfin, on parle en collectif. On s'adresse à des copropriétés en leur proposant des outils qui s'adressent à un collectif. Donc ça, c'est vraiment très important. Il ne faut absolument pas le perdre et il ne faut absolument pas négliger cette avancée. Par contre, évidemment, une fois qu'on a dit que cette aide collective socle, elle était un outil d'incitation très puissant, nous, on pense qu'effectivement, il faut regarder comment on va majorer les aides pour les propriétaires occupants et très modestes. Alors, là, vous parliez de prendre dans le pot commun pour donner plus aux modestes et très modestes.
C'est une suggestion.
Alors, ça, on connaît, on sait faire. C'est très complexe à organiser, mais ça s'appelle le mixage dans nos dispositifs. C'est pas toujours simple à instruire, hein, comme aide, parce que c'est de la mécanique au cas par cas et ça fait bouger tout le plan de financement dès qu'il y a une situation qui évolue. Mais ça reste possible. Le mixage, aujourd'hui, n'est pas possible, à ma connaissance, dans le droit commun. Par contre, on pense qu'une majoration aux aides des propriétaires modestes et très modestes, et une façon simple d'y répondre. Je reviens sur le micro-trottoir de tout à l'heure. Restons sur des choses simples, compréhensibles pour les
gens.
Donc
une surpression, quelque sorte.
Voilà, leur expliquer qu'on va enlever un petit peu du droit collectif pour majorer sur les individuels. Ça peut être aussi des débats internes.
Mais je pense que c'est pas facile à faire passer. C'est très clair.
Deuxième idée, bien sûr. Donc là, le reste à charge, on parle de ce qui reste à financer. Il faut savoir qu'en matière de financement et de subvention publique, il y a non seulement le financement en amont, le reste à charge, c'est une fois qu'on a tout financé. Mais les subventions n'arrivent qu'à la finalité des travaux, une fois
très
que
intéressant.
Les factures sont
très
acquittées et qu'on peut prouver que les factures sont acquittées et qu'elles ont été réglées. Donc les copropriétaires,
donc en trésorerie,
théoriquement, doivent avancer,
il faut avancer l'argent.
L'ensemble des subventions pour pouvoir ensuite, l'ensemble des travaux, pardon, pour pouvoir ensuite bénéficier des subventions, et il leur reste le reste à charge. Et donc toute la réflexion qu'on mène aussi, c'est comment à la fois on peut avancer les subventions, donc ça s'appelle le préfinancement, et donc là il y a des acteurs qui interviennent dans certains secteurs auprès de certaines copropriétés. Comment le généraliser, ça c'est une vraie question. Et puis reste enfin ce reste à charge qui peut être important, qui n'est pas forcément anodin. Là on parlait de quote-part de travaux de 15 000 euros, enfin si on parle de rénovation globale et
voire 20.
Ouais, moi j'ai plutôt des exemples autour de 20 à 35 000 euros par logement, hein, puis après ça dépend où on est, en zone tendue, pas tendue, quelle est la valeur du
logement. Et si on part de plus loin, on parlait de passoires énergétiques, on va être plus près de 35 000 que de 10, probablement.
Exactement. Et là, attention aussi de quoi on parle. Est-ce qu'on parle uniquement des travaux de rénovation énergétique, ou est-ce qu'on parle de reprendre tout le retard d'entretien qui est celui des copropriétés aujourd'hui, qui est réel? Parce que bien souvent, on focalise sur les travaux de rénovation énergétique. Tout à l'heure, Elio rappelait qu'on parlait de 25% des travaux éligibles. Mais quand je fais mon diagnostic, j'établis tous les travaux dont la copropriété a besoin. Et en fait, ce socle-là, tout n'est pas éligible à la rénovation énergétique. Ouais. Il y a forcément des travaux que j'ai besoin de faire qui ne sont pas éligibles, mais qui sont nécessaires et indispensables avant d'envisager une amélioration énergétique. Donc, de quelle assiette de travaux on parle ? De quel préfinancement des aides on parle ? Et de quel financement, éventuellement, du reste à charge, on peut mettre en place derrière pour aider ceux qui ne pourraient pas assumer ce reste à charge ?
Alors, on va parler vraiment du rôle du syndic. On va focaliser sur le rôle du syndic, sur l'efficacité du syndic. Et encore une fois, et même si ça doit faire de la peine à certains ici, on va regarder un sondage que Elio a souhaité faire auprès des copropriétaires pour mesurer si les syndics professionnels font bel et bien des recommandations sur les travaux de rénovation énergétique et s'il y a une compétence en la matière. Alors, il est très simple à lire, hein, le sondage. Daniel, je te demande de le regarder avec attention, ainsi que José, mais 82% des copropriétaires prétendent que les recommandations ne leur ont pas été faites par le syndic de copropriété. Ça m'évoque un courage qu'avait eu Daniel, ton homologue, hein, Jean-Marc Torollion, au salon de la copropriété il y a 2 ans. Hein, un sondage avait été fait par la FNAIM qui avait révélé que, de mémoire, 65% des syndics ne savaient absolument pas de quoi en parler. Alors, en 2 ans, là, du progrès a été fait pour quantité de raisons. Mais très clairement, je me tourne vers toi, Daniel. Bon, comment tu réagis à ça? Je connais ta volonté, l'action du syndicat. Le résultat, en tout cas, il n'est pas encore perçu. Et effectivement, tout à l'heure, je disais, est-ce que vous pouvez sortir par le haut, vous, syndic, de cette séquence transition énergétique, ou l'inverse? Je vais citer Hugues Périnet-Marquet, hein, je l'ai cité sans le nommer tout à l'heure, président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, et puis bon, un grand juriste de la copropriété. Il a signé un livre, il a signé une préface, pardon, d'un livre dans lequel il dit la chose suivante: une conception de l'écologie qui pourra apparaître à certains copropriétaires, donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est une conception de l'écologie qui pourra apparaître à certains copropriétaires comme punitive. Elle prend en otage un syndic qui se retrouve entre le marteau et l'enclume. Lui qui était déjà le percepteur de charges devient par la grâce de la loi, sinon l'ordonnateur des dépenses, du moins celui qui doit constamment rappeler aux copropriétaires leur nécessité. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une grande lucidité. Hein, il n'est pas syndic, mais c'est un grand observateur de la copropriété. José, si tu veux, parce que tu boues, et ensuite Daniel.
Je suis. Ce risque-là existe. Si on ne prend pas les outils et si on ne fait pas la démarche progressive de mettre en mouvement les copropriétaires avec le plan pluriannuel de travaux, avec les étapes, si on n'apprend pas à marcher, si on n'apprend pas à se mettre debout, eh bien on ne fera pas cette course de la lutte contre la rénovation énergétique. Au contraire, on va avoir des syndics qui vont craindre de porter des copropriétaires dans la difficulté, de porter des situations difficiles à des copropriétaires qui vont de fait de refuser.
De ne pas être élu, peut-être, hein, tout simplement.
À l'échéance, si on force, ce risque-là, il est mesuré, bien évidemment. Sûr, alors sûr. Que c'est une chance considérable. Et c'est, bon, dans le réseau ImmoTrans, c'est ProCivis, c'est. Et puis l'UNIS et puis la FNAIM sont dans ce mouvement. Je ne privatise pas cette énergie. Elle est commune aux fédérations, aux syndicats et à notre réseau. D'avérer le rôle fondamental du gestionnaire dans sa copropriété. C'est cette fierté de pouvoir conduire. Si on revient, je dirais, quelques années avant, au moment de la loi Auguet ou de la loi de 65, il y avait la fierté de son patrimoine. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'avoir cette fierté-là de nouveau en main. C'est-à-dire, oui, j'ai participé à l'amélioration de ce bien. Oui, je suis fier de ce que j'ai réalisé. Oui, je suis fier que mes copropriétaires soient contents et satisfaits. Oui, cette ambition du gestionnaire est vraiment l'évolution du rôle du syndic dans cette copropriété.
Alors,
il faut qu'il l'apprenne. C'est une vraie ambition.
Daniel, je pense que tu ne peux que souscrire à ce que José vient de dire. Il invoque d'ailleurs un avis collectif, hein,
oui,
des fédérations, les grandes enseignes comme les syndics indépendants. Je vais forcer le trait. Est-ce qu'effectivement, on ne peut pas imaginer une désintermédiation? Vous tenez très bien votre marché, les syndics, hein, on le rappellera, hein, c'est 85% des copropriétés qui sont sous gestion professionnelle, déléguée. Est-ce qu'on peut, on peut imaginer que finalement les syndics se retrouvent dans une situation telle que des copropriétés préféreront se passer de leurs services parce qu'ils viennent annoncer des mauvaises nouvelles, parce qu'ils ne les accompagnent pas assez. Voilà. Ton regard, sur, très concrètement et sans complaisance, ce n'est pas ton style.
Alors, déjà, quand j'entends ce que j'entends, enfin, le sondage, bon, c'est sûr qu'il y a du travail à faire. Voilà.
Tu en as sous le pied.
On gère beaucoup de communautés, en fait. Des communautés hétérogènes, locataires, propriétaires, même si le locataire n'a pas de pouvoir de décision, propriétaires bailleurs, des personnes âgées, des personnes non âgées. Des modestes et des pas modestes. Donc tout ça, c'est vraiment compliqué, c'est très hétérogène, premièrement. Deuxièmement, je voudrais quand même savoir, dans le sondage, si le syndic a proposé, par exemple, le diagnostic technique global. Et combien l'ont proposé? En général, on l'a pratiquement tous proposé. Et est-ce que ça a été voté? Voilà, parce que c'est quand même intéressant de connaître sa maladie, sa pathologie de son bâtiment, pour connaître les mesures à prendre.
Bien
donc, déjà, ça, c'est. Sur la méconnaissance, peut-être, et l'inquiétude des syndics, il y a toujours la suspicion de faire des travaux parce qu'il y a des honoraires derrière. Certaines associations de consommateurs ne nous ont pas forcément aidés là-dessus. Il peut y avoir cette suspicion, mais on la met de côté.
Ou elles vous ont aidé en crevant l'abcès et en te conduisant à dire que c'est un sujet...
En revendiquant le rôle de tiers de confiance, parce que nous sommes un maillon indispensable dans la prise de décision, qu'on le veuille ou non, y compris quand il y a des interventions publiques, quand il y a des aides publiques qui arrivent. À un moment donné, il faut être en Assemblée générale avec le point qui est mis à l'ordre du jour. Donc, il faut sensibiliser les copropriétaires, mais avant, les professionnels, évidemment, il y a toute forme de formation sur le sujet. Les aides sont compliquées quand même, malgré tout. Enfin, c'est pas qu'elles sont compliquées, mais c'est tel type de travaux, à tel moment, etc. Et donc, on a besoin de gens qui connaissent le sujet, parce que ça, les syndics ont peut-être peur de dire des bêtises ou de dire, voilà, quelque chose était vrai à un instant donné, c'est plus vrai et du coup, il peut y avoir un problème de confiance qui peut être un peu délité en matière de copropriétaire. Mais on a vraiment à gérer ce collectif, c'est un collectif avec des gens qui sont hétérogènes et il faut leur faire prendre la bonne décision au bon moment. Et sur l'entretien, c'est important. C'est important. Et après, il y a la rénovation énergétique. L'année du Covid a été une année blanche.
Alors,
elle a été posée tout à l'heure. Oui, on n'a pris que des décisions de type travaux curatifs, mais absolument pas de travaux, je dirais,
on va y revenir.
Et encore moins de rénovation énergétique.